En Philippiens 4, ce qu'il faut savoir, c'est que verset 1 appartient à ce que nous avons lu donc dimanche. Et c'est pour ça que je propose qu'on commence à lire donc à partir de verset 17 de chapitre 3, afin de bien voir ce verset dans son contexte. Donc verset 17 de chapitre 3. « Soyez mes imitateurs, frères. » Portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'aux choses de la terre, pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, frères bien-aimés, je désire vivement revoir ma joie, ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, bien-aimé. Donc, je sais pourquoi ça nous aide justement à comprendre donc, que ça appartient à l'autre partie. Et donc, il dit, donc, soyez mes imitateurs, continuez le chemin. Il y a effectivement ceux qui ne suivent plus le bon chemin. Mais nous, par contre, non. Nous sommes parmi ceux qui vont connaître la résurrection. Et c'est pourquoi, mes frères et mes bien-aimés, je désire vraiment vous voir. Voyez, maintenant, c'est plus touchant. Et il va en parler vraiment de pourquoi cette preuve d'amour, mais je crois qu'il y a beaucoup d'amitié entre eux. Et là, on le sent vraiment. Mes frères bien-aimés, je désire vivement revoir ma joie. Cette église est vraiment sa joie. Dans ce que nous avons vu, il n'y a pas grand-chose où il les corrige. On va voir un petit passage, effectivement, où il va justement adresser un problème au sein de cette église. Mais ce n'est pas une lettre de correction que nous avons devant les yeux. Et donc, ils sont quelque part sa joie en tant qu'apôtre, voir cette église qui marche dans la lumière et qui continue. C'est sa joie, c'est aussi sa couronne. Et ce mot pour couronne dans l'originel, ce n'est pas le couronne d'un roi, mais c'est le couronne d'un athlète, en fait, qui gagne un prix. Donc, avec ceci, en pensant que ça fait partie de son parcours, c'est-à-dire que c'est un petit peu la couronne de son ministère aussi. Le fait que cette église demeure dans l'amour qui continue. Alors, demeurez ainsi ferme. Ainsi ferme. Vous faites bien, continuez. Et c'est ça ce qui est bien aussi. Ce n'est pas, si vous voulez, la victoire que vous avez eue il y a 10 ans qui compte aujourd'hui. C'est les victoires que vous avez aujourd'hui ce qui compte pour aujourd'hui. Continuez ferme, mais bien aimé. La répétition des mots, c'est absolument important dans le texte, ce qui montre son amour. Et puis, il passe. J'exhorte Evodie et j'exhorte Saint-Tite avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'évangile avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Alors, Evodie et Saint-Tite, ce sont deux femmes qui exercent des ministères importants dans l'Église, évidemment connus par tout le monde. Et il y a un point de contention entre elles. il y a donc une espèce de d'amertume, de conflit. Et ce qui est d'ailleurs un peu dommage, c'est que dans une lettre qui nous décrit la joie du Seigneur, de la joie pour ceux qui basent leur vie sur Christ, nous avons le petit point noir, c'est l'argument de ces deux femmes. Et si elles ont leur nom dans la Bible, c'est pour ça. C'est parce que ces deux-là ne pouvaient pas oublier les blessures du passé et elles ont continué jusqu'au bout. Et bien, leur nom est dans la Bible. Et quel dommage, justement. Voyez que cette église est aimée. Cette église est chérie de Paul. Il garde cette église dans son cœur. Et la seule chose négative qu'il a à dire, c'est qu'il y a ces deux femmes qui n'arrivent pas à s'accorder. Et donc, il demande aux autres de les aider. Donc, il y a le cher fidèle collègue. On ne sait pas qui c'est. Il y a des gens qui pensent que c'est peut-être le geôlier philippien. Bon. Bref, on ne sait pas qui c'est, ce fidèle collègue. Mais les Philippiens le savaient, et c'est ça ce qui est important, et lui, il le savait. Aussi, il y a Clément et les autres. Une autre chose qui est intéressante, c'est que ça devient quelque chose qui reste quand même dans l'Église. Vous voyez, Paul, il ne prend pas position. En fait, il veut que ça soit réglé. Ça dit mieux que ça soit réglé même avant qu'il entende parler. Mais bon, ces femmes-là, leurs noms, vous voyez, sont écrits dans le livre de vie, tels que les autres, comme Clément, comme le fidèle collègue. Ils sont tous dans le livre de vie, ils sont tous sauvés. Et ça nous enseigne que même dans des situations bonnes, il peut avoir justement des problèmes. Et donc, c'est pour ça que il faut des gens comme ce collègue. Il faut aussi des gens comme Clément, parce que malheureusement, on a besoin des uns et des autres pour nous aider dans le marche avec Christ. Alors, deux, trois mots en ce qui concerne le livre de vie. Parce que c'est intéressant comme sujet. Alors, il y a énormément dit sur ce petit verset en Philippiens 4 en ce qui concerne le livre de vie. Surtout parce que ça se voit dans d'autres passages dans l'Écriture. Mais ce que nous savons surtout, c'est que si notre nom est écrit dans le livre de vie, c'est quelque chose de vraiment intéressant. C'est la joie de savoir que nous sommes donc sauvés. À ce sujet, ce livre est évoqué dans un autre passage et c'est dans Luc, chapitre 10. Et c'est dans ce passage où Jésus, il envoie ses 70 disciples. Il parcourt tout la région avant Jésus. Il prêche l'évangile, il chasse des démons et tout. Et il revient, ils sont très contents. En Luc 10, verset 17, les 70 revinrent avec joie et dirent « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et c'est ici où on en parle. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Cependant, ne vous réjouissez pas en ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Vous voyez, c'est un sujet de joie, c'est la chose la plus importante. Et si Paul évoque ça, il n'est pas encore terminé de parler de ce sujet, mais il va maintenant rediriger la conversation. Au lieu de se dévorer en petits arguments qui ne servent absolument à rien, réjouissez-vous dans votre salut. Ou bien, il y a heureusement des frères et des sœurs qui peuvent nous aider dans les cas extrêmes. Mais, voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça continue. Verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. C'est la pensée qui continue. C'est le contraire de ce que elle le faisait. Donc réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Vous voyez, ces deux-là, elles sont maintenant connues pour ces dernières 2000 ans parce qu'elles sont dans un argument. Non, 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 non. Que votre douceur soit connue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre du temps dans des vaines discussions, dans des débats et des arguments qui ne mènent absolument à rien. En Matthieu 24, donc le 24e chapitre de Matthieu, le Seigneur, il parle justement des fins des temps et il décrit le fidèle et le mauvais serviteur qui attend ou qui n'attend pas justement sa venue. Et en Matthieu 24, verset 45, il dit, quel est le bon serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Donc, le bon serviteur, il est établi parce que quand le Seigneur revient, il est occupé du royaume de Dieu. Il est engagé. Il fait ce que le Seigneur lui demande. Verset 48. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Et regardez ce qu'il fait. Verset 49. Il commence à battre ses compagnons. S'il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager la sorte des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez, deux choses mises en opposition, juxtaposition l'un à l'autre, et c'est ces deux choses, donc, comment est-ce que nous voulons que le Seigneur nous retrouve quand il revient ? Effectivement, si le Seigneur nous a avertis, il y a une possibilité qu'en tant que serviteur, donc en tant que membre de l'Église et tout, en oubliant sa venue, en pensant à autre chose et on commence à se battre, on commence aussi à glisser vers d'autres péchés, puis ça continue, ça continue. Et voyez que ici, pour revenir en Philippiens 4, verset 5, Paul, dans cette même lignée de pensée, il dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Donc, soyez engagés dans le royaume, parce que le Seigneur est proche. Soyez pas en guerre les uns contre les autres. Ne vous inquiétez donc de rien. Souvent, c'est ça qui fait la plupart de ces arguments et de ces contentions, souvent ce sont des inquiétudes. L'insécurité est une mauvaise arme dans la main de l'ennemi. L'insécurité fait des ravages partout dans l'Église. Et quel est le contraire de cette insécurité? Il dit, en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Une remède pour l'insécurité, l'anxiété, les inquiétudes, c'est la prière. Et puis on dit, mais attends, j'ai prié et puis ça revient. Ben, priez encore et continuez jusqu'au bout. En fait, la mesure de votre insécurité, anxiété, inquiétude est la mesure que nous avons à prier. Vous voyez, c'est ça ce que Dieu veut. Mais quel type de prière? Il y a toute une liste des supplications. Surtout si vous êtes anxieux, si vous êtes inquiet, c'est des supplications qui viennent naturellement. Mais avec des supplications, on commence à remercier le Seigneur, des actions de grâce. Mais faites connaître à Dieu vos demandes. Parce que Dieu ne sait pas. Attendez, oui, bien sûr, il le sait. Mais c'est bien pour vous de prier, de dévoiler votre cœur. Et vous continuez comme ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ce mot pour gardera, c'est comme un militaire qui monte le garde sur un compte. Il gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Parce que vous continuez à prier, vous priez avec insistance, et vous continuez chaque fois que ça revient. Et puis la paix vient. Ce n'est pas une paix psychologique, hein. Ce n'est pas une paix de méditation. C'est une paix surnaturelle qui vient en dépit de votre méconnaissance ou en dépit de votre manque de connaissance. Ça surpasse toute intelligence. C'est un don de Dieu qui vous vient parce que Dieu est bon. Le problème, surtout dans une société cartésienne, c'est que nous voulons la paix qui va avec la connaissance. On veut comprendre, on veut analyser et on veut cette paix-là. Il n'y a rien de mauvais avec ça. Parce qu'effectivement, il y a un certain paix quand on comprend les choses. Or, nous servons un Dieu qui est au-delà de ça et parfois, il nous demande de lui faire confiance. Et il y a des secrets où on n'a pas le droit de marcher. Il y a parfois des choses cachées de nos yeux et on peut avoir la consolation que c'est voulu par lui et en priant, en cherchant sa face continuellement dans la journée, sa paix répand dans nos cœurs. C'est aussi à l'image de Pierre qui était dans le bateau avec les autres disciples. Et puis, il voit Jésus qui marche sur les eaux. Et en voyant Jésus, il dit, « Si c'est vraiment toi, demande-moi et je vais marcher avec toi. » Il descend parce que Jésus l'appelle et il commence à marcher. On comprend que tout est bien et il est content jusqu'au moment où, quoi? Il regarde les vagues et il voit le vent. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à s'enfoncer. Vous voyez, souvent, c'est la même chose qui se passe avec nous. C'est pour ça qu'il faut continuer. Et certainement, j'ai la ferme conviction que c'est ce qui s'est passé avec Évodie et Saint-Tich. Ce sont deux femmes dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Ce sont deux femmes aussi qui servent le Seigneur et qui ont un rôle important dans l'Église. Ce n'est pas n'importe qui. Ce ne sont pas des femmes qui sont en train d'usurper le pouvoir et de détruire l'Église. Non. Certainement, tous les deux, elles pensent avoir raison, mais elles pensent tellement en avoir raison que tous les deux, elles ont tort, vous voyez. Si seulement elles pouvaient remettre ça et continuer dans la paix, je pense que les choses auraient pu se passer autrement. Et je dis ça parce que je sais que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, pris dans ce piège. Et ça nous aide justement quand il y a ces émotions fortes qui commence à monter dans vos esprits et vous pensez à avoir raison. Voyez le schéma pour que ça n'arrive pas jusqu'à là. Et il y a aussi, ce n'est pas juste les conflits, mais ça marche aussi avec tout problème différent. Parce que ce que le Seigneur, il veut toujours, c'est de bâtir une relation avec nous. Une relation qui est saine, une relation qui va continuer à être construite et bâtie. Parce que nous allons passer toute l'éternité avec lui. Voyez. Et donc, il veut prendre ce temps et bâtir cette relation. Maintenant, ici-bas sur terre, il y a cette exhortation de prier. Au reste, frère, donc finalement, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, grande liste là, des choses à méditer et de penser. On a l'impression que Paul dit que nous pouvons effectivement diriger nos propres pensées, qu'on ne doit pas être la victime de nos pensées. Comme quelqu'un sage a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de s'envoler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Vous voyez, on ne doit pas laisser des mauvaises pensées faire leurs mauvais devoirs et travail dans notre vie. Non, au lieu de faire ça, pensez ce qui est honorable, ce qui est vrai d'abord. Qu'est-ce qui est vrai? La parole de Dieu est vraie. C'est un bon moment de se rappeler des versets, de méditer des versets et de les mémoriser. Qu'est-ce qui est honorable? On pense à tous les grands héros et ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous êtes dans une situation difficile? Réfléchissez, peut-être qu'il y a une histoire dans la Bible qui correspond un petit peu, qui peut vous donner un peu d'encouragement et qui peut aussi vous diriger dans cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Ce qui est honorable, ce qui est juste. Alors, c'est trop facile de penser à ce qui est injuste, mais qu'est-ce qu'il y a qui est juste? Ou ce qui est pur? Ou qu'est-ce qu'il y a qui est aimable? Ou mérite l'approbation? Vertueux, digne de louange. En fait, c'est lui qui remplit tous ces critères, c'est Jésus. Que Jésus soit l'objet de vos pensées. Jésus est vrai, il est honorable, il est juste, il est pur, aimable, mérite l'approbation. Vertueux, digne de louange. C'est lui qui remplit tout ça. Et c'est lui qui nous aide dans tout ça. Il est le maître, il est le Seigneur. Ce que vous avez appris et reçu et entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. C'est ce que Paul a dit. Et il nous a laissé beaucoup de lettres pour savoir ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné. C'est comme il est dit en Jacques, la foi sans les œuvres est vaine. Si on ne mettait pas la parole que nous apprenons, même ce que nous avons vu ce soir, si on ne met pas ça en pratique dans notre vie, nous allons continuer à tourner en rang et tourner en rang sans jamais progresser, sans jamais avancer. Et c'est l'heure d'avancer, puisque il dit le Seigneur est proche. Alors il ferme ce sujet et puis il passe à un autre. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt que vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me compter dans l'état où je me trouve. Là, il leur remercie en fait pour ce don qu'il a reçu. C'est-à-dire que l'Église à Philippe, ils ont entendu de ce que Paul souffrait et ils ont fait une collecte. Ils ont envoyé ça avec Épaphrodite. On a vu ça dans le chapitre 3. Envoyé avec Épaphrodite, excusez-moi, chapitre 2. Et Épaphrodite l'a amené et l'a donné à Paul pour venir à ses besoins. Et Paul, il est content, il est touché par ça. Il dit que j'ai une grande joie dans le Seigneur à voir ça. Vous avez pensé à moi, il dit. Et peut-être comme vous avez déjà pensé à ça, mais vous n'avez pas eu l'occasion. On entend même le sourire dans son écriture. Et bon, pour qu'ils comprennent aussi que ce n'est pas que Paul, il cherchait ça, il est surpris, mais il est content de l'être. Mais il veut profiter de la situation pour leur enseigner sur un dernier point. Et c'est sur les finances. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Eux, ils le savaient, mais il veut leur apprendre quelque chose, le contentement. J'ai appris à me contenter. C'est une leçon qu'il faut apprendre. Ça ne vient pas de soi, ça ne vient pas comme ça. Je me rappelle quand nous avons déménagé ici à Paris, et quand on a vu Paris pour la première fois, surtout en tant qu'Américain, on voyait toutes ces choses qu'on a vues dans les films pendant toute cette époque. Et on était vraiment amoureux de la ville, l'architecture et tout. J'ai un appartement au même temps et on voulait être dans ces belles immeubles et tout. Et puis non, le Seigneur voulait autre chose pour nous, une autre belle immeuble dans un autre coin de Paris qui n'était pas touristique. Et c'est bon, hein. Mais je me rappelle qu'à cette époque, on avait du mal à se contenter de ce qu'on avait. Et en plus, il y avait une équipe d'évangélisation qui est arrivée avant même que nos meubles sont arrivés. Oh, c'était la honte parce qu'on était là dans l'appartement sans qu'il y ait rien. Et puis du coup, on avait 10 invités. Heureusement, ils avaient des chambres à l'hôtel et si je me souviens bien, les meubles sont arrivés pendant leur voyage. Le Seigneur était en train de nous apprendre à se contenter dans l'état où on se trouvait. Et j'avoue que c'était assez difficile à l'époque et marrant quand je pense à tout ça. On peut être content dans une belle maison et dans une squat. On peut être content dans une maison qui est modeste, aussi bien que dans un palais somptueux, si on a appris à être content. Parce que l'inverse est vrai aussi. Je peux être mécontent dans un palais somptueux, aussi bien que être mécontent dans la misère. Le contentement, ça prend. Et ça ne dépend pas des circonstances. C'est ce qu'il dit là. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Et c'est important à garder ceci en tête parce que on m'a appris à l'école, je pense comme vous, que si les circonstances sont bien, donc je serai bien. Le niveau de mon contentement dépend de mes circonstances. Paul dit que non, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la 17. Je sais vivre dans l'humiliation. Ce n'est pas une chose facile, mais quelque part, ça c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et il y a, je dirais presque, je pense, une facilité à ça, à se contenter en ça, ou au moins une valeur attachée à ça, que de savoir vivre dans l'abondance. Pourquoi? Parce que pendant au moins 1000 ans, ou bien plus, l'Église a bâti des lieux où les gens sont privés de beaucoup de choses pour vivre dans l'humiliation afin de trouver le contentement. Pas seulement ça, mais il y a aussi le fait que quand on est dans le besoin, on apprend la consolation des souffrances de Christ, on apprend aussi à dépendre sur Christ et de prier avec Christ. Il y a quelque chose dans la souffrance qui nous émonde, mais qui nous fortifie si on fait confiance en Dieu et on continue à prier et on refuse de le relâcher. C'est dans ces moments-là qu'il fait son œuvre dans nos vies et il commence à nous transformer. Et on peut apprendre à vivre dans l'humiliation. Ok, Seigneur, j'ai vécu ça encore, ok. Et je prie et je sais comment chanter dans cette situation. Or, est-ce que vous savez vivre dans l'abondance sans devenir hautaine, sans devenir orgueilleux, sans penser que vous avez été béni et parce qu'il y avait quelque chose qui va bien dans votre vie, ou bien sans commencer à dépenser les choses juste sur vous et ne pas chercher sa volonté même pour ça comme vous l'avez cherché avant? Il y a plein de pièges dans l'abondance. Est-ce que vous pouvez être aussi content dans l'abondance d'humiliation? Paul, il a appris. Et on sait comment. C'était en passant beaucoup d'années avec Paul. N'oubliez pas qu'il écrit ça dans une prison, mais après des décennies de vie en Christ. Hein. Ne soyez pas découragés. Parce que c'est un apôtre aussi, il a reçu quand même une onction spéciale qui lui donne la possibilité d'écrire la parole de Dieu. Hein. Mais il est aussi un homme et ça peut aussi nous encourager pour nous qui ne sommes pas encore à la hauteur. Et c'est donc avec cette idée en tête que je sais faire tout, je sais être rassasié et avoir faim, et vivre dans l'abondance et dans la disette, que nous avons verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que le contexte de ce verset nous apprend que en Christ qui me fortifie, je peux être content dans la disette et dans l'abondance. Il peut m'apprendre ce contentement et il peut m'apprendre comment vivre dans ces deux situations. Je peux tout en Christ, je peux tout en celui qui me fortifie. Et je souligne ceci parce que souvent, bien intentionnellement, prendre ce verset en dehors de son contexte pour le faire dire ce qu'il ne dit pas, et même ceux qui veulent avoir un gain par-dessous en prêchant que oui, vous pouvez tout, il faut juste avoir un peu plus de la foi. Et avec cette foi, vous pouvez être riche, beau et blonde et tout va bien pour vous. Ce n'est pas exactement ce que dit le verset là. Le verset, il est dans son contexte. Il est mieux donc de le garder dans son contexte. Parce que déjà, je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde ce verset, c'est déjà un défi. Mais on a quand même la grâce de savoir que c'est en Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation, il dit. Donc, ne pensez pas que c'est en vain que vous m'avez envoyé ça. Je suis content, merci, il dit. Et puis, il continue la leçon. comme Paul le fait. Et vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire. Car à Thessalonique déjà, et à deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don. Ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. C'est ça ce qu'il veut. C'est bien que quand même, c'est Philippiens, il lui donne ses dons, même au-delà de leurs moyens. Mais eux, ils montraient leur amour à Paul en envoyant des dons. Il y a des gens comme ça qu'ils aiment donner des cadeaux et qui pensent aux autres comme ça. Et je crois que c'est les caractéristiques des Philippiens. C'était comme ça qu'ils montraient leur amour envers lui. Paul, il est en Thessalonique. Il faut qu'il ait quelque chose. Donc, il envoie ça à lui. Et lui, il est tout content. Mais notez que... Ce n'est pas qu'ils dépendaient sur eux ou ils sollicitaient des dons, ils cherchaient le fruit. C'est ça qui compte. Quand nous donnons de notre temps, de notre argent, c'est quelque chose qui est bénéfique pour nous. Il est plus bénéfique que de donner que de recevoir. Et c'est vrai. Souvent, on pense que, ouais, bon, c'est une belle parole du Seigneur et tout, et on met à côté parce que, en réalité, entre guillemets, tout le monde sait que celui qui reçoit la bénédiction. Non, c'est faux. Si ça se fait correctement. Si on donne notre temps, si on donne quelque chose à quelqu'un dans le bon cœur, de bon cœur, c'est bénéfique pour nous parce qu'on le donne comme on le donne au Seigneur. Et c'est souvent nos finances ou notre temps qui est le plus cher. Et c'est en donnant ce qui est de plus cher à Dieu. Et c'est ça qui porte du fruit, parce qu'il l'utilise et il le fructifie. Si, par contre, vous pensez qu'il faut donner et vous recevez cette. Vous ressentez le stress de donner ou donner votre temps ou comme s'il faut absolument que vous le fassiez, ça ne porte pas du fruit, ça. Ce n'est pas bénéfique pour vous et c'est comme j'ai besoin de quelque chose et disons peut-être je dois déménager et quelqu'un me dit bon bah écoute hein, bah oui bah, Mike d'accord je viens d'accord et puis il vient et puis il commence à bouger des choses et oh là, pourquoi tu n'as pas mis ça ici et puis il est tout mécontent et il vient il m'aide mais du coup, je serais vraiment gêné. Et dans ma tête, tout au long de son service, je vais regretter sa présence. Vous voyez? Alors, si nous servons Dieu de cette même manière, il vaut mieux arrêter. Si vous donnez votre argent comme ça, bon, écoute, bon, voilà, Dieu, gardez votre argent. Dieu n'est pas fauché. Il n'a pas besoin de votre argent. Gardez-le. L'Église n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin. Et je pense que c'est ça ce qui est important à dire. Il veut ce qui porte du fruit. C'est ça ce qu'il veut. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance grâce à ce qu'il a reçu. Je suis comblé. Et reçu par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. et qui lui est agréable. Il utilise le langage de sacrificateur quand ça monte vers le trône de Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Le contexte, ce n'est pas donner votre dîme et avec la mesure que vous allez donner à Dieu, c'est comme il vous écrit un chèque et vous aurez tout cet argent à votre compte. Ce n'est pas ça ce qu'il dit. Il parle à des gens qui ont déjà donné et des gens qui ont donné de bon cœur. Il n'y a aucune manipulation dans ça. C'est une promesse. Dieu prend soin des siens, en final. Alors oui, peut-être nous avons la foi d'y croire. Mais est-ce que vous faites confiance à Dieu qui le fera? Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. J'ai entendu parler d'un pasteur justement qui passait par un mois assez difficile et qui a reçu un appel d'un ami qui voulait lui faire un don. Donc c'était quelqu'un de très riche et tout. Et il raccroche le téléphone, il est tout content, il dit « Ah !» Il parle à son épouse. « Ah oui, un tel, il a dit que le chèque est envoyé dans le poste. Il est tout content, il se réjouit et tout. » Et puis, bon, après ça, il part et puis il commence à réfléchir. Le Seigneur travaille son cœur et puis il témoigne que du coup, il se dit « Mais attends, j'étais tellement content parce que ce monsieur m'a dit qu'il va m'envoyer un chèque. Alors que Dieu a écrit dans son livre, dans la Bible, qu'il va pourvoir à mes besoins. » Et j'aime beaucoup cette histoire. Ça me touche parce que je trouve que c'est assez vrai. Il pourvoira selon sa richesse, selon sa gloire. Je sais que dans ma vie, il a souvent comblé mes manquements financiers ou autres, souvent en ne l'utilisant pas l'argent. Moi, j'attendais des choses spécifiques et souvent, il a comblé le manquement en utilisant des choses que je n'attendais pas. Et c'est bien parce que je trouve que on se concentre trop sur l'argent et pas suffisamment sur celui qui peut tout. Hein? Dieu, il peut tout. Il n'a pas besoin d'argent de résoudre nos problèmes. C'est une bonne leçon, je crois, pour nous tous. Et c'est ça qui nous renvoie vers ce contentement. Là où on se trouve. À Dieu, notre Père, la gloire, au siècle des siècles. Saluez tous les saints en Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Ces salutations sont tellement beaux. Il termine dans la louange. Il est content pour eux. Il est content pour ce qui va se passer. Il salue les frères, les saints, en Christ. Mais il termine dans la grâce. Tout ce qu'il veut pour eux, même de la maison de César, notez bien, il y a des gens de César, dans la maison de César qui sont nés de nouveau. Bref, on ne sait jamais où se trouvent justement les enfants de Dieu. Il est capable de les mettre partout dans le monde, même en travaillant dans la mairie de Paris. Il y en a, on m'a dit. Alors que la grâce donc du Seigneur Jésus-Christ il soit avec votre esprit. C'est ça dont nous avons besoin de plus, la grâce de Dieu.